Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h.
Quand vous m'interpellez, je vous dis simplement une chose. C'est pas l'État qui fait le revenu de l'agriculteur, c'est pas vrai.
Déjà 10 heures de visite pour Emmanuel Macron ici au Salon de l'Agriculture et beaucoup d'échanges depuis ce matin sur le pouvoir d'achat, les retraites et un moment de tension quand des gilets jaunes ont voulu l'approcher ce matin. Le chef de l'État qui vient tout juste de sortir de table.
À la une également, l'épidémie de coronavirus, 2 morts en Italie et des villes dans le nord du pays qui interdisent aujourd'hui les lieux publics.
Bon, je ne suis vraiment pas plus inquiet que ça. Après tout, nous verrons bien.
Et puis le 15 de France qui affronte le Pays de Galles à Cardiff dans le tournoi des 6 nations. Un quart d'heure que la rencontre a débuté. On en est où, Simon Rubin ?
Eh bien, l'équipe de France tient le coup et même mieux, elle mène au score. 7-3 avec un essai d'Anthony Boutier. Tous les espoirs sont permis pour les Bleus.
Vous êtes à l'écoute de ce grand journal sur Europe 1 en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On tient le chronomètre et les comptes ensemble, notamment Fabienne Lemoyle. Alors, pas sûr qu'Emmanuel Macron batte son fameux record marathon de 14 heures l'an passé au salon. Cela fait quand même 10 heures que le président de la République arpente les allées de ce salon.
Et avec pas mal d'échanges, on va l'entendre, Wendy, avec des agriculteurs sur les retraites, leur pouvoir d'achat. Tout cela au lendemain, on le sait, de l'échec des 27 pour se mettre d'accord sur le budget européen et donc la PAC. Mais pas de grosses tensions, à l'exception du moment ce matin où des gilets jaunes ont tenté de l'approcher. L'une des figures du mouvement, Éric Drouet, a d'ailleurs été évacué. Claudia Bertram, vous suivez cette visite pour Europe 1. Et en fait, vous me l'avez dit, Emmanuel Macron vient tout juste de déjeuner. Il vient de sortir de table il y a à peine 3 quarts d'heure.
Oui, le président est ressorti de son déjeuner avec les interprofessions avec plus d'une heure de retard et il s'offre depuis un bain de foule à travers les allées du salon. Et il a été immédiatement interpellé par un jeune producteur de lait.
Quand vous m'interpellez, je vous dis simplement une chose, c'est pas l'État qui fait le revenu de l'agriculteur, c'est pas vrai.
Non, on sait, mais enfin, ne serait-ce que nous défendre. Enfin,
mais alors là, pour le
au moins pour qu'on puisse nous avancer. Quoi.
Pour le coup.
Parce que nous, on part pour vous, pour, peut-être pour 5 ans.
Ça fait 3 ans.
Nous, on part pour 40 ans.
Je pars pour qu'on réussisse tous collectivement.
J'espère.
Depuis 3 ans, je suis pas chômé. Quand j'ai lancé, j'étais là depuis quelques semaines. Les états généraux de l'alimentation, on a passé des lois, on a bougé les choses, on n'a pas chômé. Mais après, il faut que dans chaque filière, les gens s'organisent.
Le président attendu aussi pour répondre aux inquiétudes des agriculteurs sur leur mal-être. Il doit d'ici quelques minutes s'entretenir avec Édouard Bergeon, le réalisateur du film Au nom de la terre, un film sur le mal-être et le suicide des agriculteurs, justement.
Et puis je l'évoquais, un moment de tension donc ce matin quand des gilets jaunes ont voulu approcher le président.
Oui, ce matin il a été interpellé par une femme qui a dit participer à toutes les manifestations de gilets jaunes depuis le début.
Je me prends des grenades de désencerclement, je vis la guerre tous les samedis.
Mais
ces personnes qui sont agressives, ce sont les policiers.
Non, mais nos forces de l'ordre, il n'y a personne qui s'engage pour être agressif.
Mais moi je les comprends, ils n'en peuvent plus, mais nous non plus on n'en peut plus.
Mais donc,
vous ne recevez pas les gilets jaunes.
Eh bien, faites-moi, on peut prendre vos coordonnées, vous faites un groupe.
Oui.
Mais je reçois un groupe.
D'accord, ben moi je vous donne mes coordonnées sans problème.
Alors vous l'entendez, le président s'est engagé et c'est une première à recevoir un groupe de gilets jaunes à l'Élysée. Quelques instants plus tard, l'ancienne figure des gilets jaunes, Éric Drouet, qui se trouvait à proximité du président, a été mise à l'écart et expulsée du salon.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1 qui continue donc à suivre cette visite du président Macron qui se poursuit et que l'on retrouvera, Claudia Bertram, dans le journal de 19h.
L'agriculture au cœur de l'actualité, beaucoup de sujets en échange, en questionnement entre le président de la République, les agriculteurs, les éleveurs présents. On fait un point circonstancié avec l'une de nos invitées, présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, notamment l'avenir des subventions de la politique agricole commune et la transition agricole, alors que le nombre d'agriculteurs ne cesse de baisser en France. On le voit depuis ce matin, Fabienne, beaucoup de monde autour de nous pour ce premier jour du salon.
Et ce qui vous a marqué l'interview quand vous avez rencontré ces visiteurs, c'est le plaisir tout simple que les gens prennent dans tous les halls. J'ai pu le voir moi aussi en circulant, à commencer par le hall 1 où l'on se trouve actuellement, où se trouve notre studio. Le hall, il y a tous les animaux avec bien sûr évidemment la mascotte du salon, la charolaise idéale.
Et oui Fabienne, ce sont les stars, elles sont juste à côté de nous, on ne peut pas passer à côté, on les entend, on les sans les incontournables vaches, tout comme idéal, et eh bien ce sont les charolaises qui ont impressionné Asia, Amir et Aymen.
Oh là, regardez la grosse vache là, son gros nez.
Là, on est en train de voir une vache, elle a un gros nez.
Ouais, elle est en train de nous regarder.
Oh, elle fait peur.
Elle a un piercing dans le nez, c'est trop beau.
Je la touche, je la caresse.
Moi, j'ai un petit peu peur, mais
moi, j'ai peur qu'elle lève ses fesses.
Moi aussi.
Ces vaches, sous tous leurs angles, ont déjà envahi les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas qu'elles, il y a aussi de bien plus petits gabarits. Certains poussins ont eux aussi décidé de jouer les stars puisqu'ils sont nés sur la route du salon. Écoutez.
Ce matin, donc on était dans la commune de Loué, donc on a récupéré ces petits œufs et ils sont nés. Il y en a qui sont nés dans la voiture pour venir jusqu'au salon. Et puis dans la route, on entend cuicui.
Je vais le mettre dans ma main. Moi, après aussi.
T'as vu, ça chatouille.
Alors, il faut savoir que le salon, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Avec les animaux, on est au paradis des enfants. Mais il y a aussi le fameux hall des produits de France. Autrement dit, celui où on a envie de tout goûter. Bon, j'ai glissé mon micro au stand Centre Val-de-Loire.
Europe 1, vous êtes la première à goûter, pour la peine. Attention, c'est chaud, c'est du Saint-Maur de Touraine.
C'est très bon.
C'est une recette très très simple. En fait, nous ici, on représente les 5 fromages AOP de la région Centre-Val-de-Loire. Et là, c'est le Saint-Maur de Touraine. On a des produits qui sont fantastiques, on ne les transforme pas trop et c'est l'essentiel.
La preuve que l'on est du côté des grands, le salon prend parfois des allures de boîte de nuit avec les traditionnels fanfares, vous l'entendez peut-être derrière moi. Voilà, inutile de préciser, Fabienne, que les visiteurs arpentent souvent les halls, les allées de ce hall, un verre à la main.
Hélène Terzian qui a donné de sa personne, on l'a compris, sur le stand de Val-de-Loire.
Voilà, on est ensemble depuis ce salon de l'agriculture à Paris jusqu'à 20h ce soir.
Europe 1, 18h07, la suite du journal. Fabienne Amoyle, Wendy Bouchard.
Dans l'actualité également, Fabienne, le coronavirus, alors que les Chinois se veulent rassurants avec une baisse du nombre de contaminations quotidiennes, eh bien c'est hors de Chine précisément que l'inquiétude semble grandir.
Et en particulier, Wendy, en Italie, avec 2 morts et des vides dans le nord du pays qui prennent des mesures de confinement, interdisent des lieux publics. En fait, Nicolas Feldman, c'est un foyer autour d'une localité en Lombardie qui inquiète.
Oui, autour de cette ville de Codogno, 15 000 habitants, cela se trouve à quelques 60 km au sud-est de Milan. Les autorités l'ont identifié comme l'un des foyers de contamination. L'une des 2 personnes décédées, une femme de 77 ans, habitait près de cette commune. 32 des quelques 40 porteurs du virus en Italie ont été détectés dans cette région de Lombardie. C'est en fait un Italien rentré de Chine qui pourrait être à l'origine de la contagion. Conséquence, eh bien dès hier, la mairie de Codogno a décidé la fermeture des lieux publics, des bars, des écoles, des supermarchés. Et les rues étaient désertes ce matin, comme le raconte cet habitant de la ville.
Il n'y avait que très peu de gens. C'était assez étrange pour un samedi matin. La police locale fait des tours et des tours et demande aux établissements encore ouverts de fermer leurs portes. Mais bon, je ne suis vraiment pas plus inquiet que ça. Après tout, nous verrons bien.
Et comme Codogno, une dizaine d'autres villes ont fermé leurs lieux publics pour contenir la maladie. Au total, plus de 50 000 habitants sont priés de rester chez eux. Le chef du gouvernement devrait annoncer des mesures extraordinaires dans la soirée.
Nicolas Feldman.
Et à 19h15, on revient sur ce message inquiet de l'OMS. Pourquoi s'alarmer autant alors que notre grippe saisonnière est aujourd'hui plus mortelle encore? On fait le point avec un spécialiste en la matière. C'est donc à 2h cette nuit, Fabienne Lemoyle, que le réacteur numéro 1 de Fessenheim a été arrêté.
On l'a entendu ce matin sur Europe 1, un moment difficile pour les habitants et les salariés de la centrale. Du côté des écologistes, on attendait cette fermeture depuis l'annonce de François Hollande en 2011. Parmi ceux qui ont défendu depuis cet arrêt, il y avait André Hatz du collectif Stop Fessenheim.
Bien entendu, la fermeture du premier réacteur nucléaire français, nous ne pouvons qu'être heureux, c'est bien évident. On est heureux que Fessenheim 1 soit fermé, on le sera encore beaucoup plus lorsque Fessenheim 2 sera fermé. Nous pouvons comprendre que les salariés de la centrale de Fessenheim soient perturbés par un déménagement. Mais enfin, c'est quand même des gens d'un certain niveau intellectuel. C'est quand même des gens qui savaient qu'une centrale nucléaire n'est pas éternelle. Alors, il y en a un qui doit être triste, c'est monsieur le maire de Fessenheim. Parce que lui, il n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir du pognon, du pognon, du pognon. Mais enfin, il n'avait qu'à mettre de l'argent de côté lorsque la manne coulait durant ces 40 dernières années.
André Hatz, militant de Stop Fessenheim avec Arthur Mbaché.
Il y a 2 semaines, Didier Gayaguet, vous vous en souvenez, démissionnait après 20 ans à la tête de la Fédération des Sports de Glace. Conséquence de l'onde de choc portée par les révélations dans un livre de la patineuse Sarah Abitbol.
Et c'est une autre championne de danse sur glace, Nathalie Péchala, qui se lance dans la bataille aujourd'hui et qui a confirmé qu'elle était candidate à la présidence de la Fédération lors d'une conférence de presse à laquelle vous avez assisté, Marion Gauthier.
Oui, et sans surprise, Nathalie Péchala axe son programme sur l'intégrité dans le sport, la lutte contre les violences. Un travail important pour rassurer d'abord les parents.
Avant, on ne voulait pas le voir, on ne le savait pas, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est différent. Tous ces témoignages servent à faire grandir le sport de demain. Moi, en tant que maman, ça me rassure, honnêtement, parce qu'un sujet dont on a pris connaissance, bah forcément, on peut le traiter.
Nathalie Péchala évoque notamment la vérification du casier judiciaire des intervenants en phase de test pour le foot. Mais sa candidature divise. Un collectif de patineurs a rappelé cette semaine qu'elle faisait partie des Français Volants, le club de Gilles Beyer, accusé de viol. L'ex-double championne d'Europe de patinage artistique les invite à se présenter aux élections et attaque leur méthode.
Couper toutes les têtes, donc des postes très importants et des gens qui savent comment faire fonctionner la maison. Je parle par exemple du poste de secrétaire général. Table rase pour tout rebâtir à 2 ans des Jeux, ça me paraît irréalisable.
Les membres de la Fédération de sport de glace sont élus, impossible de les virer, ajoute-t-elle. Pour l'instant, 4 candidats au total sont en lice, leur programme soumis au vote des présidents de clubs de sport de glace. Verdict le 14 mars prochain.
Marion Gauthier.
Et on retourne à Cardiff pour terminer ce journal.
Et on retrouve Simon Rubin pour un nouveau point sur la rencontre entre le 15 de France et le Pays de Galles. Est-ce que les Français se comportent toujours aussi bien, Simon ?
Toujours aussi bien, effectivement, l'équipe de France qui mène 10-3, 25e minute de jeu. Alors là, c'est un moment un peu compliqué pour les Français. Ils sont à 10 mètres de leur propre ligne d'essai, à essayer de défendre face à des Gallois qui enchaînent là en ce moment les phases offensives. On rappellera l'essai d'Anthony Boutier qui a récupéré un ballon aérien, mal récupéré par les Gallois. Il s'en est saisi. L'arrière français, il est allé marquer cet essai en début de match, transformé par Romain de Tamac. Et là, les Bleus résistent, tiennent. Mais attention, on est en train de s'enflammer. La côté Gallois, 25e minute et la France tient, elle est debout et elle mène 10-3.
Et on sent l'enthousiasme de Simon Rubin à Cardiff, qui y croit ?
Ambiance partagée entre Cardiff et Salon de l'Agriculture. Vous avez officié toute la journée, merci Fabienne Lemoyle et à demain sur Europe 1.